Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On va revenir sur les principales informations de la journée. On décrypte, on débat ce soir avec Nathan Devers, agrégé en philosophie. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Olivier.
À vos côtés Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Olivier.
Ancien patron du RAID. Bonsoir Pierre Gentillet.
Bonsoir.
Avocat, bien évidemment. On va avoir besoin de votre analyse ce soir, notamment quand on parlera de la justice. On va se poser encore des questions. Bonsoir, Julie de Vintraube.
Bonsoir, Olivier.
Grand reporter au Figaro Magazine, bien évidemment. Dans un instant, le sommaire, mais avant, le rappel des titres avec vous, ma chère Isabelle Piboulot. Bonsoir, Isabelle.
À Brest, la jeune élève infirmière Elena Cluyou reste introuvable depuis une semaine. Un suspect a confié à ses proches avoir commis une bêtise et un accident. Ce Brestois de 36 ans a ensuite tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Pour l'heure, l'accident de voiture reste une hypothèse. Le véhicule du suspect a été incendié, mais aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur. À Paris, l'incendiaire présumé de la rue Erlanger sera jugé aux assises dès demain. Pendant trois semaines, ses proches, des policiers et des pompiers seront entendus. La suspecte de 44 ans, atteinte de troubles psychiatriques, aurait mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec son voisin. Le drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Et puis aux États-Unis, les républicains critiquent Joe Biden pour sa gestion de l'incident du ballon chinois. Selon eux, le président démocrate a été trop lent à agir et pas assez ferme. Il avait donné l'ordre d'abattre l'engin mercredi, mais le Pentagone attendait que le ballon survole la mer pour éviter des dégâts au sol. De son côté, Pékin accuse les États-Unis d'avoir surréagi en employant la force et se réserve le droit de répliquer.
Merci beaucoup Isabelle. Et justement, cette crainte d'escalade entre la Chine et les États-Unis, on va y revenir ce soir dans Soir Info Week-end. Au sommaire, justement, la première ministre prête à bouger sur les retraites à la demande des Républicains, alors que les voix de LR sont indispensables au gouvernement pour faire passer la réforme. À droite, on hésite, tandis que la majorité des Français restent opposés au report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Alors, des concessions sont-elles possibles avec les Républicains? La rue peut-elle encore stopper la réforme? L'avis de nos invités au début de cette édition. L'actualité marquée ce dimanche par la marche pour Lucas. L'adolescent de 13 ans s'est suicidé début janvier, harcelé en raison de son homosexualité supposée. Depuis le drame, le ministre de l'Éducation affiche sa mobilisation contre le harcèlement des élèves LGBT. Alors, comment s'attaquer à ce phénomène? Avec quelles mesures? Hugo Martinez, lui-même harcelé, sera en liaison avec nous pour témoigner dans cette édition. Et puis le fonctionnement de la justice qui interroge une nouvelle fois. Nous entendrons le témoignage d'une victime de viol. Son agresseur a été condamné à 14 ans de prison, mais remis en liberté 8 mois plus tard et placé sous contrôle judiciaire. Nous verrons pour quelles raisons. En attendant, la victime craint chaque jour de croiser son bourreau. Alors, à qui la faute? On en parle dès 23h. Je vous le disais, on reviendra aussi sur cette crainte d'escalade entre la Chine et les États-Unis. La parole à vous dans un instant, chers amis. Mais avant, marquez une très courte pause et on se retrouve tout de suite sur CNews. Restez avec nous. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Nathan Devers, Jean-Michel Fauvergue, Pierre Gentillet, Judith Vintraube. Et je vous propose de démarrer, alors une nouvelle fois, c'est encore sur le devant de l'actualité, avec la réforme des retraites. Avec les déclarations dans les colonnes du JDD d'Elisabeth Borne, alors que 69% de Français sont maintenant défavorables à la retraite, la Première ministre, elle, s'est dite prête à bouger. Elle tend la main aux Républicains. On regarde ce sujet de Solène Boulan et on en parle après. Le sujet de Solène Boulan, donc. On va voir dans un instant. Sur Elisabeth Borne, je vous le disais.
Retraite à l'Assemblée. Mercredi dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a reçu le président des Républicains, Éric Ciotti, pour poursuivre les négociations. Si une alliance entre le gouvernement et les Républicains semble inévitable, le président du parti tient à poser ses conditions.
J'ai toujours dit que je souhaitais voter une réforme des retraites parce qu'elle est nécessaire et parce que nous devons être responsables pour l'intérêt du pays. Si Elisabeth Borne sait écouter les propositions pertinentes que nous faisons, le recours au 49.3 ne sera pas nécessaire.
Après l'annonce de la revalorisation des petites retraites à 1200 euros, la Première ministre indique faire un pas de plus en direction des Républicains, notamment sur le dispositif de carrière longue, proposition qui permettrait d'emporter une très large majorité dans le groupe.
Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans conformément aux règles prévues par le dispositif. Nous entendons leurs demandes.
Elisabeth Borne a indiqué ne pas envisager le recours au 49.3 sur ce texte. Les débats devraient quant à eux durer 20 jours en première lecture.
Judith Vintraube, intéressons-nous aux Républicains d'abord pour commencer. Est-ce que des concessions sont possibles entre les Républicains et le gouvernement, selon vous? On sait que chez les LR, il n'y a pas de consensus forcément pour faire cette alliance avec le gouvernement.
Il n'y en avait pas avant la concession d'Elisabeth Borne, il n'y en a toujours pas depuis. Pour quelle raison? Parce que certains députés, les Républicains, expliquent que c'est une fausse concession. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à travailler avant 20 ans, 21 ans, on n'est pas forcément payé au SMIC. On est même souvent payé en deçà du SMIC. Il y a certains contrats, je pense par exemple au contrat de qualification que tout le monde connaît, 16 à 25 ans. En dessous de 25 ans, vous êtes payé moins que le SMIC. Or, il semblerait que la concession d'Elisabeth Borne, ce serait uniquement pour les gens qui auraient le nombre de trimestres suffisant, mais payé au SMIC. D'où le faible chiffre de 30 000 personnes qu'elle avance, qui bénéficieraient du nouveau dispositif. C'est un peu technique et complexe, mais en tout cas, c'est pour ça que ça freine. Mais au-delà de cette raison technique, je pense qu'il y a une partie des Républicains qui ne voient pas pourquoi ils auraient les inconvénients du pouvoir en assumant une réforme largement impopulaire, y compris chez les plus âgés, donc chez leur électorat de prédilection, sans avoir les avantages du pouvoir. Ils ne sont pas aux manettes et ils payent. Ils paieraient l'impopularité d'une réforme qui, par ailleurs, ne résout pas grand-chose, puisque comme il n'y a pas de capitalisation dans le système, la démographie voue la répartition à l'échec.
Mais
ou alors à allonger et à reporter sans cesse et sans cesse l'âge de départ à la retraite.
D'un point de vue politique, finalement, est-ce que cette affaire, Pierre Gentil, ne met pas les Républicains dans l'embarras? Parce qu'on le disait, 69% des Français sont contre la réforme, donc les députés, ils doivent bien rencontrer des administrés qui votent les Républicains, mais qui disent « Ah non, moi je veux pas de cette réforme », quand ils sont sur le terrain. Il n'y a pas aussi un aspect politique délicat pour les Républicains?
Il y a ça, mais même si ça évolue dans l'électorat un peu plus âgé, l'électorat républicain et LREM, je pense que l'électorat LR est plus favorable à cette réforme des retraites que ne l'est 69% des Français qui y sont opposés. Pour les Républicains, outre la question des convictions, moi je vais raisonner de manière un peu plus cynique, il y a un calcul à faire. Et la question surtout, c'est qui fait le calcul? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les Républicains, il faut bien comprendre qu'ils sont dans une position stratégique compliquée. Emmanuel Macron, en principe, c'est son dernier mandat, son dernier quinquennat. Donc se pose la question de la succession. Donc les Républicains vont devoir se démarquer. Or, ici, sur une réforme majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron, ils sont face à deux possibilités et à deux inconvénients. La première possibilité serait de voter cette réforme. Mais s'ils votent cette réforme, le risque, évidemment, c'est qu'ils apparaissent comme ce que je pense qu'ils sont, c'est-à-dire le supplétif d'Emmanuel Macron, et ils auront du mal à se distinguer, hormis peut-être sur les questions d'immigration, et encore. Et s'ils ne votent pas cette réforme, alors ils entreront pour une partie d'entre eux, parce que certains essayent de faire apparaître une voix dissonante, comme Aurélien Pradier, mais ils apparaîtront comme en dissonance par rapport à leur électorat et aussi par rapport à ce qu'eux-mêmes ont dit pendant des années. Donc ils sont piégés. Voilà.
Ils sont piégés et il y a aussi l'ombre de Nicolas Sarkozy, également Nathan Devers, dans cette affaire, qui est sorti de son silence récemment.
Oui, tout à fait, pour donner des conseils à Emmanuel Macron sur comment on réussit une réforme des retraites, en effet. Je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'il y a un dilemme des Républicains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer du côté du gouvernement si vous voulez, ce double standard, c'est-à-dire quand il s'agit d'être face à la population, une population qui est massivement opposée à cette réforme, là, Madame Borne a fait quand même preuve d'une très très grande rigidité, puisqu'elle a commencé par dire qu'elle allait dialoguer, qu'elle allait concerter, qu'ils étaient souples. Ils étaient souples, mais ils ne toucheraient pas d'un iota à cette question des 64 ans, donc ce qui s'appelle ne pas être souple. Et en effet, par contre, quand il s'agit de venir négocier avec des parlementaires pour obtenir des voix, éviter un 49-3, là, en effet, il y a une certaine forme de souplesse. Donc je pense que tout cela, c'est quand même des intrigues parlementaires, relevant de la démocratie représentative, mais que ça passe à côté, entre guillemets, de la grande politique, qui est la vraie réflexion qu'on n'a jamais vraiment pu avoir, hein, même s'il y a eu un semblant de débat pendant plusieurs semaines, sur cette réforme et sur son bien fondé et sur là où devrait se placer la vraie souplesse du gouvernement.
Un vrai débat. C'est vrai, Jean-Michel Fauvert, qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées. Je pense à la question de la natalité, entre autres. Il y a d'autres dossiers qui auraient pu être mis sur la table qui ne l'ont pas été. Est-ce que ça a été une erreur du gouvernement, selon vous ?
Alors, est-ce qu'ils l'ont été ou est-ce qu'ils n'ont pas été dans le cadre des échanges qu'il y a eu, en particulier avec les syndicats, il y a un certain nombre de choses dont on a parlé, d'autres choses qui ont été, dont on a rendu compte sur les plateaux télé, d'autres qui sont passées peut-être inaperçues. En fait, en réalité, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les deux bancs, moi je pense qu'on est dans une certaine covidisation du débat. Un jour les masques, l'autre jour pas les masques. Là, on est un peu comme ça sur cette réforme de retraite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des concessions, quelles qu'elles soient, ces concessions vont être attaquées par une partie des gens qui ne veulent pas voter ça. Et je reviens sur les LR. Moi, je pense que c'est un piège. Cette réforme de retraite commence à devenir un piège mortel pour les LR. Et en particulier, pour la nouvelle direction des LR, pour Éric Ciotti, pour les ténors des LR, pour Retailleau, pour Larcher, qui se sont prononcés pour cette réforme-là. Je rappelle que, encore une fois, qu'à chaque année, à l'occasion du PLFSS, c'est-à-dire du projet de loi de financement de la sécurité sociale, au Sénat, Retailleau et son groupe de sénateurs LR mettaient un amendement sur la retraite, non pas à 64 ans, mais à 65 ans. Donc ils ne peuvent pas se dédire à un certain moment, et s'ils le faisaient, il va y avoir un vrai gros problème. Alors, le tout est de savoir si Ciotti, nouvellement élu à la tête de son... si Éric Ciotti, nouvellement élu à la tête de son parti, est capable d'imposer un certain nombre de choses. Et je pense que la réunion qu'il y a eu avec la Première ministre, je pense qu'elle intéresse plus Éric Ciotti que la Première ministre elle-même. Éric Ciotti veut des garanties, veut dire « je suis là, je vais vous suivre, mais il me faut des garanties pour que mes troupes me suivent à moi et que je sois parmi en minorité au sein de mon parti. » C'est ça qui se joue, et de toute façon... au final, s'il n'y avait pas les voix suffisantes des LR, et si la Première ministre devait avoir recours au 49-3, et si par hasard il y avait une motion de censure qui était adoptée, il y aurait une dissolution immédiate et les LR seraient encore plus dans la panade.
Ça, ils en ont tout à fait conscience.
Ils ont peur aussi.
Et c'est le risque. Je vous dis, en fait, ils sont dans une position qui est vraiment une position très inconfortable, mais aussi parce que, et je pense que c'est ça le plus important.
Cette réforme des retraites, ça peut être la fin des LR finalement.
On va voir. Moi, je ne veux pas tirer de trait définitif, mais ils doivent se distinguer. Et d'après moi, c'est plutôt ma conviction, je pense qu'ils n'ont pas compris que les Républicains, qu'aujourd'hui, ils sont un astre mort. Mais en réalité, depuis 2017, Emmanuel Macron a réuni le centre-gauche et le centre-droit. Et comme depuis 20-30 ans, à force de trahisons répétées, la droite, les Républicains, ex-UMP, a trahi une partie de son électorat qui est partie notamment pour une partie au Rassemblement National et qui a un moment s'est retrouvée chez Éric Zemmour, eh bien aujourd'hui, il ne reste que du centre-droit. Et c'est pour ça que ça fait doublon. Et aujourd'hui, les gens le voient. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'une personnalité sortira en 2027, mais en l'état, aujourd'hui, LR, c'est un doublon de LREM.
On va marquer une très courte pause. On continue de parler de la retraite dans un instant. Côté mobilisation, il y en a qui arrivent mardi, samedi prochain. Alors, est-ce que la rue, eh bien, elle peut encore faire plier le gouvernement? Je vous pose la question dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Nathan Dever, toujours avec Jean-Michel Fauvert, Judith Vintraud, Pierre Gentillet également, qui s'est absenté. Il va revenir dans quelques instants pour continuer de parler de la réforme des retraites. On va s'intéresser maintenant plus à la mobilisation, puisqu'il y a eu une annonce aujourd'hui de la SNCF, la circulation sera de nouveau fortement perturbée mardi. Alors mardi prochain, les TGV comme les TER, ainsi que les métros et les RER, je vous le rappelle, c'est à l'occasion de la troisième journée de grève nationale contre le projet des réformes des retraites. Vous voyez les prévisions à l'antenne, une annonce donc de la SNCF et de la RATP. On note tout de même une légère amélioration. La question qui se pose tout de même, c'est la mobilisation, en tout cas mardi et samedi prochain. Est-ce qu'au fond, Nathan Devers, vous pensez que les syndicats ont encore la possibilité de faire descendre beaucoup de gens dans la rue? Combien en faudrait-il? Le gouvernement peut-il encore plier, en somme?
Écoutez, en tout cas, les syndicats, pour l'instant, ont montré qu'ils existaient encore, dans un contexte qui était pour eux assez défavorable. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, les syndicats avaient complètement perdu le monopole des luttes sociales. Les luttes sociales les court-circuitaient. Les gilets jaunes ont été un symptôme de ça. Les luttes de médecins libéraux sur des collectifs anonymes passaient complètement à côté des syndicats. Et je me souviens que même il y a quelques semaines avant le début des mobilisations, on s'interrogeait et on était assez dubitatif, moi le premier, sur le fait de savoir si ça allait être un succès ou pas. Et là, c'est un succès, c'est-à-dire que c'est des mobilisations qui sont massives, qui sont impressionnantes, mais sans avoir besoin de recourir à la violence. Alors pour vous répondre, je ne suis pas un devin, peut-être que ça va faire reculer le gouvernement ou pas, mais j'aimerais juste dire une chose en tout cas, l'enjeu n'est pas de faire des prévisions, mais de dire que si le gouvernement se montre sourd face à ces revendications qui sont belles, qui sont respectueuses, qui sont non-violentes, qui sont républicaines, eh bien ça créera un climat qui sera favorable à la violence. C'est-à-dire que, à supposer que le gouvernement là ne soit pas dans le dialogue, eh bien on pourra retenir, les historiens retiendront, que le seul moment où le gouvernement a accepté de faire des concessions, c'était face aux Gilets jaunes et à la suite des violences qui avaient pu accompagner le mouvement des Gilets jaunes.
Concession
et donc,
très légère.
Si vous voulez, et en plus, qui était légère. Mais si vous voulez, c'est un climat. Parce que quand on condamne les violences en politique, il faut évidemment condamner ceux qui commettent des violences, ceux qui font des manifestations en cassant des commerces, en s'en prenant à des policiers, etc. Mais il faut aussi condamner les conditions de possibilité de ces violences, c'est-à-dire le climat. Et un climat dans lequel on n'écoute pas des centaines de milliers de personnes respectueuses, républicaines et non violentes, c'est un climat qui est évidemment défavorable.
Alors Jean-Michel Fauvergue, selon nos informations confirmées par le service police-justice, on anticipe, les services de renseignement anticipent la présence de 900 000 à 1 100 000 personnes, 190 actions au niveau national, 40 000 à 70 000 manifestants pour Paris. Alors c'est une légère baisse, mais ça reste à niveau. Je vous repose la question, est-ce que la rue peut encore avoir un impact sur le gouvernement?
Oui, alors on est sur ce qui est annoncé, c'est des étiages qui sont à peu près identiques, un peu plus bas éventuellement, mais on verra samedi. Il y a eu deux manifestations, c'était 1 100 000 pour l'une, 1 000 000, un tout petit peu plus pour l'autre. Ça n'a pas été une progression énorme, d'ailleurs, entre les deux manifestations. Je tiens à dire aussi ce qui a déjà été dit par Nathan, c'est que effectivement, on a des syndicats qui ont repris leur droit de manifester. Enfin, ils l'ont jamais abandonné, mais ils ont organisé les manifestations. Ça s'est plutôt bien passé. Et c'est ce type de manifestation-là est une manifestation qui était fait dans la non-violence, et c'est quelque chose qu'il faut souligner.
Alors il est 22h30, Jean-Michel, je suis obligé de vous couper malheureusement.
Alors, parce que censuré, alors.
Point, c'est Isabelle Piboulot qui scrute l'actualité et qui nous fait un point complet sur les dernières informations, et il est 22h30, c'est à vous Isabelle.
Une marche blanche en hommage à Lucas s'est tenue à Épinal dans les Vosges. Près d'un mois après le suicide de l'adolescent de 13 ans, plus de 500 personnes se sont réunies pour honorer sa mémoire. La marche s'est conclue par une minute de silence. Au printemps, 4 collégiens âgés de 13 ans seront jugés pour avoir harcelé l'adolescent en raison de son homosexualité supposée. En Ukraine, les combats sont rudes, notamment à Bakhmout, point chaud du front dans l'est du pays. À Kharkiv, au moins 5 civils ont été blessés lors de 2 frappes russes. Face à la situation, le ministre ukrainien de la Défense a critiqué les réticences des Occidentaux à livrer des avions de combat, alors que le pays s'attend à un assaut russe d'envergure ce mois-ci. Et puis un mot de sport, c'est un retour en force. Teddy Riner, vainqueur du Grand Slam de judo de Paris à Bercy, le Français s'est imposé en finale contre le Japonais Yoga Ota. Après une pause forcée en raison d'une blessure, le colosse de 33 ans décroche un 7e titre à Paris à 1 an et demi des Jeux Olympiques.
Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Piboulot, prochain point sur l'actualité à 23h. Jean-Michel Fauvergue, vous appréciez hein, les Teddy Riner.
Oui.
Impressionnant.
C'est un très grand champion. Très grand champion. En plus, c'est un garçon qui est adorable. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est un garçon qui est adorable.
Alors, en tout cas, on reprend notre discussion sur les retraites avant de revenir sur la marche blanche qui a eu lieu cet après-midi pour Lucas. On va terminer ce tour de table concernant la mobilisation attendue. Jean-Michel Fauvergue, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous disiez néanmoins que ça ne va pas changer grand-chose.
Oui, ce que je voulais dire, c'est à moins que les chiffres soient multipliés par deux ou par trois, ce qui serait vraiment particulier. Mais de toute façon, c'est un choix politique sur lequel le président de la République qui s'est engagé et la première ministre ne peuvent pas reculer et donc ne reculeront pas pour plusieurs types de raisons. Et puis s'ils reculent là-dessus, il n'y a plus de quinquennat. Donc ça va pas effectivement changer grand-chose. Il y a eu quand même des concessions. On l'a vu tout à l'heure, on en a discuté tout à l'heure. Il y a eu quelques concessions. Il peut y avoir d'autres types de concessions, mais pas sur le paramètre de l'âge.
Judith Vintraub, une manifestation réussie mardi, une manifestation encore plus réussie samedi, ça ne changera rien. Selon vous ?
À mon avis, non. Ce qui pourrait changer, ce sont des blocages qui perdurent et des manifestations qui se multiplient et qui s'accélèrent.
Et qui durcissent ?
Or, là, la RATP annonce que la grève de mardi sera moins dure. Il n'y a que deux lignes fermées, qui seront au moins partiellement fermées, la 8 et la 13 mardi. Là, dans le rail, à la SNCF, la CGT et Sud ont décidé de faire grève aussi mercredi, mais l'UNSA et la CFDT n'ont pas suivi, donc le métro fonctionnera correctement mercredi. Il y aura aussi une manifestation le 11 sur une idée de Laurent Berger, CFDT d'ailleurs, qui a choisi ce week-end de chasser croisé. On peut s'interroger sur la modération de la CFDT. Dans les raffineries, pour l'instant, ça ne suit pas. Et en fait, ce que le gouvernement guette, c'est ça. Ce sont les blocages, la paralysie éventuelle de la France. À quel moment, en 95, c'est là-dessus qu'il avait été obligé de céder. La Juppé avait cédé là-dessus. C'était complètement bloqué.
Pierre Gentillet, finalement, rien ne bougera, à moins que le mouvement de contestation se durcisse. C'est ça, au fond, ce qu'il faut retenir pour conclure.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que, à l'exception, effectivement, de blocages qui mettraient le pays dans une situation économique telle que le pouvoir faisant, une balance entre les avantages et les inconvénients pour le retrait de la retraite, moi, je pense que sur le nombre de manifestants, ça ne changera rien pour une raison assez cynique, en fait. Et en tout cas, moi, je l'ai compris modestement depuis la manif pour tous. Souvenez-vous, au moment de la manif pour tous, on avait 1 million de personnes dans la rue, d'accord ?
François Hollande avait reconnu, d'ailleurs.
Oui, mais il avait reconnu, c'est très très bien. Mais il n'a pas bougé d'un pouce. Christiane Taubira avait vraiment ignoré, pour ne pas dire méprisé, ce mouvement. Mais en fait, pour une raison tout à fait simple, c'est que c'était l'antithèse de son électorat. Eh bien, je pense que les gens qui sont dans la rue sont l'antithèse de l'électorat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne va donc pas céder pour ces gens-là. Qui plus est, je le dis, je le répète, l'électorat d'Emmanuel Macron reste favorable à cette réforme des retraites. S'il recule sur cette réforme, évidemment, ce sera un très mauvais signal qu'il enverra à son électorat, un signe d'impuissance, d'autant que c'est la première grande réforme et peut-être la grande réforme de son quinquennat.
Et on suivra, bien évidemment, ces mobilisations de très près cette semaine. Je vous le rappelle, mobilisation prévue mardi et samedi prochain. L'actualité marquée aujourd'hui également par la marche blanche en hommage à Lucas dans la ville d'Épinal, dans les Vosges. Quelques 500 personnes étaient présentes pour l'adolescent de 13 ans harcelé en raison de son homosexualité supposée et dont le suicide début janvier avait suscité, souvenez-vous, une très vive émotion. Retour sur cet hommage avec Marion Bréchet et Célia Judas.
Quelques 550 personnes participaient ce dimanche à Épinal à une marche blanche en mémoire du jeune Lucas. En tête de cortège, Séverine, sa mère, tenait à ce que ce rassemblement soit strictement limité à rendre hommage à son fils.
Mon bébé, tu resteras à jamais dans mon cœur. Tu es dans mes pensées à chaque instant qui passe et mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que tu étais parti. Tu seras à tout jamais mon étoile, à tout jamais mon bébé, je t'aime.
Tu seras viril, mon kid.
À la suite de la prise de parole de la famille, le club de danse que fréquentait Lucas a lui aussi souhaité lui adresser un dernier au revoir en musique.
Tous les danseurs avaient envie d'être là et cette danse était pour lui.
Après de chaleureux applaudissements, place au recueillement avec une minute de silence. Touché par la forte mobilisation qu'a suscité l'histoire tragique de Lucas, cette marche a également été l'occasion pour ses proches de faire passer un message.
Battez-vous, vivez heureux et libre et ayez le courage vraiment de vous battre pour ce que vous voulez être et ce que vous êtes.
Selon les chiffres de l'Éducation nationale, en France, 700 000 enfants et adolescents sont chaque année victimes de harcèlement scolaire.
Bien évidemment, un hommage déchirant, un moment de recueillement que la famille a souhaité s'en tenir à un hommage. Lundi, la mère de Lucas avait pris la parole pour expliquer que, selon elle, le harcèlement avait été l'élément déclencheur du suicide de son fils. Et c'est effectivement la question qui se pose derrière. Comment lutter contre le harcèlement aujourd'hui? On vous a posé la question, regardez.
Ce qui est inadmissible, c'est qu'il faut dire stop. Stop à ça. Voilà.
Il faut arrêter, quoi.
Il faut du personnel, il faut du monde dans les classes, mais il faut dire stop.
J'ai déjà vécu de l'harcèlement. Donc moi, je veux vraiment que ça bouge et qu'on nous montre qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que honnêtement, je trouve que c'est pas du tout normal que certains établissements ne réagissent pas vis-à-vis de ça.
Est-ce que les profs, les instits s'en aperçoivent et tout? Mais peut-être pas, il n'y a peut-être pas assez de travail de fait. Voilà, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite dans les classes.
Donc moi je pense que non, il faut se battre et il faut aller jusqu'au bout pour essayer de sauver d'autres enfants.
Et pour parler de la question du harcèlement, on va recevoir Hugo Martinez. Hugo Martinez, président de l'association Hugo. Bonsoir Hugo, merci d'être en liaison avec nous. Alors vous avez déjà témoigné sur notre antenne, mais pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre histoire, peut-être en quelques mots, pour recontextualiser, racontez-nous, quelle est, vous, votre histoire avec le harcèlement?
Bon, je crois qu'il faut avant tout redire en effet qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, j'en suis sorti et au contraire, j'en ai fait une force à travers l'association que j'ai créée, l'association Hugo. On va revenir dessus, je pense, et sur ce que ça a pu apporter, entre autres notamment la loi que j'ai portée. Mais en effet, moi, j'ai été victime donc, de harcèlement scolaire pendant près de 12 ans sous différentes formes verbales, donc des insultes, des menaces, mais aussi physiques après au collège. Et puis, dès la fin de collège, jusqu'à fin de scolarité, donc jusqu'au lycée, jusqu'à fin de lycée, du cyberharcèlement. Alors, moi, les réseaux sociaux démarraient, si j'ose dire, leur implantation dans les cours d'école. Aujourd'hui, on sait que c'est bien plus tôt qu'il arrive, dès le CP, parfois même la grande section. Et surtout, moi, je tiens aussi à rappeler, à préciser que le cyberharcèlement, donc, qui est l'une des formes de harcèlement scolaire, on peut en être victime sans même être sur les réseaux sociaux. Moi, ça a été mon cas d'ailleurs. Hein. Ça a commencé en troisième, alors que moi-même, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'en étais victime puisque des vidéos de moi circulaient à l'époque. Donc, c'est vrai que j'ai été, moi, victime de ces différentes formes de harcèlement scolaire. C'est ce qui a fait aussi que j'ai choisi d'en faire un combat pour l'utilité publique. J'ai choisi de mettre un peu... finalement, cette expérience négative, bien évidemment, mais en tout cas, qu'elle puisse servir. Et c'est ce qui m'a mené à notamment me battre pour obtenir la création du délit de harcèlement scolaire. Je pense qu'on va y revenir ensemble au cours de cet échange.
Effectivement. Et comment réagissaient vos professeurs, justement? Est-ce que vous pouviez échanger, partager votre douleur à l'école? Comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il y avait une écoute?
Non. Moi, j'en ai parlé à mes parents parce que je voyais qu'à l'école, ça ne, ni même au collège, hein, ça ne réagissait pas. Et que ce soit les professeurs ou même les maîtresses, comme on dit à l'école, ou même les surveillants. Hein, il n'y avait personne, il n'y avait pas un adulte qui était à l'écoute de ce mal-être dans lequel j'étais. Alors, à l'époque, oui, on ne formait pas, voire encore moins, en tout cas qu'aujourd'hui. Ça fait la différence. Aujourd'hui, on le voit avec la formation, on voit qu'on avance dans le bon sens, mais ça ne suffit pas. Moi, je regrette par ailleurs que la formation à la question du harcèlement scolaire ne soit pas intégrée dans la formation initiale des enseignants. Là, moi, j'ai encore entendu cette semaine, je questionne les enseignants qui viennent d'arriver de démarrer leur activité. Quand je leur demande dans votre formation combien de jours, d'heures, de minutes, de secondes éventuellement dédiés au harcèlement scolaire, zéro. Zéro. Hugo, pour envisager des formations continues, uniquement.
Hugo Martinez, vous restez avec nous à faire un tour de table, mais avant, on va entendre Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Il s'est justement exprimé sur les réseaux sociaux après le drame de Lucas. Il a laissé aider de créer notamment un observatoire LGBT dans chaque académie. On l'écoute et on réagit ensuite.
Nous devons nous mobiliser contre toutes les formes de harcèlement que les élèves LGBT peuvent subir. Nous créons un observatoire LGBT dans chaque académie pour former et pour sensibiliser. Il y a désormais dans les collèges des élèves ambassadeurs, il y a des adultes référents que nous allons spécifiquement former sur les questions LGBT. En matière de communication, nous préparons la journée du 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et puis, d'une manière générale, je serai au premier rang pour sensibiliser la communauté éducative à ces questions et à la lutte contre toute forme de violence, verbale ou physique, que les élèves LGBT peuvent subir. Une école plus accueillante pour les élèves LGBT, c'est une école plus accueillante pour tout le monde. C'est bien dans cette direction que nous allons. À la semaine prochaine.
Donc voilà, on voit un engagement pris sur la question de l'accueil, la prévention des LGBT de Pape Ndiaye. C'est un levier, bien évidemment, qu'il faut mettre en œuvre. Non, pour vous, non. C'est pas suffisant ou...
Non, c'est à côté de la plaque.
C'est à côté de la plaque.
Pourquoi ne pas faire un observatoire de la grossophobie, un observatoire de la roussophobie? On sait que les enfants roux parfois sont moqués et harcelés. La mère de Lucas a dit qu'elle avait prévenu que son enfant était harcelé et que rien ne s'était passé. Pape Ndiaye est ministre de l'Éducation. La première chose qu'il devrait faire, c'est dire « je vais diligenter une enquête pour voir pourquoi les alertes de la mère de Lucas n'ont pas été prises en compte, pourquoi rien n'a été fait ». Quand on travaille sur ces sujets, c'est toujours la même chose. Les parents, quand ils sont au courant, ont alerté. Dans le meilleur des cas, c'est leur enfant qui a dû changer d'établissement, pas les harceleurs.
Hugo Martinez, qui est en liaison avec nous, vous vouliez réagir aussi à cette annonce de Pape Ndiaye sur la question du harcèlement très anglais sur l'accueil des élèves LGBT. Quelle est votre réaction?
Moi, je me suis battu 5 ans pour qu'on dissocie harcèlement de harcèlement scolaire. Parce que on voulait mettre dans le même seau le harcèlement entre adultes et le harcèlement scolaire, qui sont deux choses totalement différentes. Bon, j'ai réussi contre vents et marées avec ce délit spécifique de harcèlement scolaire. Mais pendant ces 5 ans, quand je parlais d'harcèlement scolaire, on me disait, le harcèlement sexuel, mais non, il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement scolaire, le cyberharcèlement est une forme de harcèlement scolaire, il faut le rappeler. Et donc, en effet, l'homophobie, la grossophobie, ce sont les justifications injustifiables, bien évidemment, mais en tout cas, les thématiques qui donnent lieu au harcèlement scolaire. Et là, de se focaliser, alors je comprends bien, Lucas a été victime en effet d'homophobie, et c'est ce qui l'a finalement amené à son acte du 7 janvier dernier. Mais en focalisant sur l'homophobie et sur la lutte contre les discriminations à l'encontre des LGBT, on écarte finalement dans le dispositif tous les autres enfants victimes de harcèlement scolaire qui ne seraient pas du ressort de l'homophobie. C'est-à-dire qu'on leur dit, finalement, à vous, enfants qui êtes victimes de harcèlement scolaire, mais pas d'homophobie ou d'LGBT-phobie, vous n'êtes pas victime de harcèlement scolaire. Et ça, je trouve ça intolérable. Il y a un moment, il faut arrêter de faire des amalgames sur des sujets.
C'est pas le motif
bien évidemment,
du harcèlement.
C'est important.
C'est pas le motif du harcèlement. C'est vrai, Nathan Dever, vous vouliez réagir aussi. C'est la problématique, c'est le harcèlement. C'est pas la nature de la personne, si je puis dire, qui est en cause dans cette affaire.
Oui, je voulais réagir déjà au combat en général de Hugo Martinez. Je pense que c'est un combat absolument majeur. Parce que le harcèlement scolaire, et il le disait et il avait raison, c'est un phénomène transhistorique qu'on observe depuis l'existence de l'école. Mais il se fait qu'aujourd'hui, avec le cyberharcèlement, il prend des formes qui sont nouvelles et qui sont extrêmement inquiétantes parce que d'abord, il y a encore plus de lâcheté. Hein, quand on est caché derrière un écran, c'est beaucoup plus facile. Deuxièmement, c'est beaucoup plus difficile de retrouver parfois les gens qui commettent ces harcèlements, surtout si c'est sous pseudo. Et donc, c'est vraiment, je pense, un impensé qui échappe totalement aux autorités. Maintenant, pour revenir sur la question du lien entre homophobie et harcèlement scolaire, Hugo Martinez sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi, il me semble que si on voulait caractériser les motivations du harcèlement scolaire, chaque cas est singulier, hein. Mais globalement, on s'en prend toujours à l'individu qui est identifié comme faible. Ouais. C'est ça fondamentalement. Ensuite, le motif de la faiblesse ou le caractère de la faiblesse peut changer. Ça peut être lié à du racisme, ça peut être lié à de l'homophobie, ça peut être lié, enfin, de la faiblesse hein, fantasmatique. Hein, je suis pas en train de dire. Ça peut être lié à n'importe quoi d'autre. Mais il me semble que ce qui est toujours pointé du doigt, c'est cette question de la faiblesse qui est victime de la meute des élèves. Ah. Ensuite, sur l'homophobie, quand même, il faut dire une chose. C'est que dans l'histoire du harcèlement scolaire, disons que pendant très longtemps, il a été structuré notamment autour des questions de l'internat. Et qu'il y a énormément de témoignages dans la littérature qui abondent en ce sens, et que souvent, le harcèlement scolaire était naturellement lié, mais consubstantiellement lié, à quelque chose qui était des comportements d'homophobie, d'identification de la personne qui allait devenir subir les brimades, les attouchements, etc., de ses camarades d'internat ou de collège-lycée. Et donc, il me semble qu'il faut quand même penser ce passé-là et les choses qui en restent dans notre époque.
Pierre Gentillet.
Oui, supérieur. Nathan a utilisé un mot que j'avais en tête, effectivement, c'est le mot de meute. Je pense qu'effectivement, alors évidemment, là, il y a un caractère déterminant, puisque, enfin, semble-t-il, c'est son appartenance sexuelle, le fait qu'il était homosexuel, qui a déterminé. Mais là, ce dont on parle, c'est avant tout le cadre. Et le cadre, c'est quoi? C'est le cadre scolaire. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, Nathan a bien dit, les motifs qui fondent ce type de harcèlement, c'est avant tout l'idée de s'en prendre à un plus faible que soi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous interroge sur sur la nature humaine au fond, et en particulier sur ce que ont les enfants. Ce sont des comportements de meute. Moi, je pense, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que si vous voulez, l'enfant, quand il n'est pas éduqué, c'est un sauvage. D'accord? Et il faut l'éduquer. Alors, ça ne veut pas dire, là, quand je vous dis ça, qu'il faut des coups de fouet et qu'on les mette tous à l'armée. Ce n'est pas ce que je vous dis.
Ça veut dire plus de règles à l'école, c'est ce que vous nous dites.
Non, l'école, oui, mais vous savez,
et à la maison.
En France, on dit le ministère de l'Éducation nationale. En réalité, l'éducation, ça devrait être les parents. Le problème, c'est que comme on a des parents qui éduquent de moins en moins leurs enfants, eh ben, si vous voulez, eh bien, ces enfants restent de plus en plus souvent des sauvages. Vous savez, il y a un roman que Nathan connaît peut-être de William Golding, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Génial, ouais. Mais lisez-le pour comprendre que les enfants ne sont pas des petits anges blonds, tout gentils, tout mignons, mais qu'ils peuvent être des sauvages, des barbares, et se comporter comme les pires des hommes. Cela suppose plus d'éducation, plus de discipline, et être absolument intraitable sur ce type de comportement.
Hugo Martinez, on va libérer Hugo Martinez, peut-être juste un mot, on vous entendra ensuite réagir, Nathan Devers. Avant de vous libérer, Hugo Martinez, effectivement, quand Pierre Gentillet pointe du doigt la responsabilité aussi des parents, c'est-à-dire que c'est un tout, il faut que les parents soient davantage sensibilisés et qu'il y ait aussi davantage peut-être de règles à la fois dans les familles et au sein de l'école. C'est par là que ça passe la lutte contre le harcèlement aussi.
Et c'est justement pour ça que je me suis battu pendant près de 5 ans avec ce délit de harcèlement scolaire qui responsabilise tant les enfants que les parents. Je pense notamment au stage de responsabilisation au harcèlement scolaire pour lequel je me suis battu et qui à la fois responsabilise l'enfant parce qu'il est obligé d'assister à ce stage, mais aussi les parents parce que c'est à eux qu'incombent les frais de ce stage. Donc ça va responsabiliser les deux. C'est aussi les adultes de l'établissement scolaire qui sont responsabilisés puisqu'il y a des obligations. Et par article 40 du code de procédure pénale, ils sont sous l'injonction de signaler tout crime ou délit. Et vu que le harcèlement scolaire est devenu un délit, ils sont dans l'obligation de le signaler. Et là, d'ailleurs, on voit bien, il y a une enquête qui est ouverte contre X dans ce cadre-là spécifique. Moi, juste, vous ne me convaincrez pas ce soir de dire que le harcèlement scolaire est majoritairement causé par des questions d'homophobie. Et moi, je suis convaincu que c'est une grave erreur qui est faite aujourd'hui. Oui. Il y a encore 1 ou 2 ans, on disait que c'était la faute des réseaux sociaux, on se rejetait de tout ça. Et là, maintenant, c'est la question de l'homophobie. Et donc, on vient mettre finalement la lumière sur une des causes. Et c'est ni bon, ni pour les personnes LGBT, ni pour les autres enfants victime de harcèlement scolaire qui ne soit pas LGBT. Je trouve ça inadmissible et honteux qu'on focalise là-dessus, alors que c'est l'une des causes et pas la seule. Moi, juste pour donner un exemple, peut-être pour terminer, je sais que le temps est compté, mais pendant le Covid, moi, j'ai au moins 10, 15, voire 20% des cas de harcèlement scolaire remontés à l'association qui étaient causés, vous savez par quoi? Par la couleur ou la matière d'un masque Covid. La couleur ou la matière d'un masque Covid. Donc, qu'on vient de pas me dire que l'homophobie, c'est le motif majeur aujourd'hui de harcèlement scolaire.
Ça confirme effectivement ce que disaient Pierre Gentillet et Nathan Devers.
Le harcèlement est un prétexte.
Oui, c'est ça.
Donc, peu importe le prétexte, il ne faut pas s'attaquer au prétexte. Il faut s'attaquer au harcèlement.
Bien sûr.
Peut-être que je me suis mal exprimé ou que je ne l'ai pas dit clairement, mais moi, il me semble que je n'ai pas dit qu'il y avait un lien consubstantiel. Enfin, j'ai pas dit que le harcèlement scolaire, c'était du harcèlement toujours homophobe, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je disais que pris individuellement, un enfant, et c'est peut-être le désaccord que j'ai avec vous, le micro-désaccord, c'est qu'il me semble que pris individuellement, un enfant n'est pas fondamentalement un sauvage. En revanche, la société des enfants, ça veut dire dès lors que les enfants se rassemblent entre eux, là on assiste à des phénomènes de meute qui cristallisent un bouc émissaire. Le bouc émissaire qui est désigné comme faible. Alors ensuite, ça peut être pour des raisons qui sont liées à la sexualité, ça peut être pour des raisons qui sont liées à n'importe quoi, même à des couleurs de masques, comme vous le disiez pendant la crise Covid. Mais il me semble que c'est ça, c'est la meute forte contre le faible, même si d'ailleurs ce faible n'est pas toujours faible, mais contre l'individu désigné comme faible.
Merci beaucoup Hugo Martinez d'avoir été avec nous, le président de l'association Hugo, hein, c'est bien cela, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet peut-être?
asso-hugo.fr.
Merci à vous d'avoir été en liaison avec nous en direct sur CNews. On va parler de la question de l'immigration, un autre dossier chaud pour l'exécutif dans un instant. Jean-Michel Fauvergue, on ne vous a pas entendu sur la question du harcèlement.
Oui, je voulais dire qu'une fois qu'on a constaté tout ça, et quel que soit d'ailleurs le prétexte de ces harcèlements, quelle que soit la cause de ces harcèlements, il faut lutter contre. Et pour lutter contre, on a, le discours du ministre a été largement battu en brèche par le bon sens de Hugo qui témoignait là. Mais par contre, j'ai un petit, je m'oppose un peu à lui dans le cadre de sa volonté de créer un délit d'harcèlement scolaire. Je pense que la loi, on a déjà trop de lois. Je peux vous le dire en tant qu'ancien député, la loi contient déjà la possibilité d'intervenir, sauf qu'à un certain moment, quand on signale un fait comme ça, eh bien, il faut intervenir dans l'affaire qu'on est en train de commenter là. Il n'y a pas eu l'intervention dès le départ. Quand on signale quelque chose, il faut intervenir.
Les parents, les enseignants.
Je reprends ce qu'a dit Hugo et qui m'effraie un peu, c'est de dire qu'il n'y a aucune formation sur le harcèlement pour les professeurs et les enseignants. Donc, si c'est le cas, il faut peut-être s'y mettre maintenant, quoi.
Allez, on va parler de la question de l'immigration. Autre dossier chaud du gouvernement avec le projet de loi immigration. Je vous le rappelle, il a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. Il prévoit de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier tout en renforçant des possibilités d'expulsion. Alors pour Olivier Véran, il s'est exprimé ce matin chez Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Et pour lui, le fond du problème, c'est l'intégration. Notre modèle est inefficace. Écoutez-le.
Je vous dis qu'il y a un sujet sur l'intégration.
Mais comment
vous... des Français qui considèrent que nos modèles d'intégration en France ne sont pas des modèles suffisamment efficaces et qu'on a raté quelque chose par le passé.
Oui, mais ça passe par l'école, ça passe par des sujets extrêmement lourds.
Ça passe évidemment par la question éducative, ça passe aussi par la manière dont on accueille les personnes. C'est pour ça que je parlais des droits et des devoirs, le fait que les gens qui rentrent et qui ont vocation à rester s'engagent et qu'ils puissent être accompagnés. Qu'on puisse leur permettre aussi, vous savez, il y a aussi des modèles d'intégration qui ont raté par le passé, parce qu'on empêchait à tout le monde de travailler par principe. Vous n'avez pas le droit, on ne va pas vous expulser, vous n'avez pas le droit de rester pour autant, vous n'avez pas le droit de travailler, évidemment vous n'avez pas le droit de voler. Allez-y,
mais que je comprends.
Là, c'est sûr qu'en matière d'intégration, mais dans votre logique, ça ne marchera jamais.
Judith Vintraube, c'est le problème, finalement ce ne sont pas les flux migratoires, mais c'est l'intégration, c'est notre faute finalement, la faute à la France.
C'est exactement ça. Dans le discours de Olivier Véran, il est complètement hémiplégique, seule la République est responsable de la non-assimilation des étrangers qui arrivent en France pour s'y installer. Je prononce le mot assimilation, lui évite, il est resté sur l'intégration. Et c'est un vocabulaire qui veut dire quelque chose. Les gens qui demandent à ce que les étrangers souhaitant devenir français ou séjourner longuement chez nous fassent leurs valeurs de la République, s'assimilent. Ils assimilent les valeurs de la République. Je rappelle qu'assimiler, ça marche dans les deux sens. La République vous assimile et vous assimilez ses valeurs. Lui, il est dans un discours complètement culpabilisant vis-à-vis des institutions, de l'école, du marché du travail, etc., etc. C'est la faute de tout le monde, sauf de l'individu qui arrive, dont on présuppose qu'il veut vivre exactement à la française. Il n'y a qu'à se balader dans certains coins de France pour voir que c'est tout à fait ce qui anime les ressortissants de plusieurs communautés. Là, tous les étrangers qui arrivent en France ne veulent pas vivre comme au pays qu'ils ont quitté, mais une certaine proportion veulent reconstituer le mode de vie qu'ils ont connue, mais en France.
Dans ce cas-là, on peut imaginer aussi qu'ils justifient cette volonté de régulariser les travailleurs sans papier et en disant voilà, bon, voilà. On...
Qui est encore une autre question.
Qui est encore une autre question, mais est-ce que ça ne va pas aussi dans ce sens-là, Nathan Devers?
Écoutez, ça m'ennuie beaucoup parce qu'une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec Olivier Véran et je trouve son analyse assez
juste. Ah là, vous êtes piégé, Nathan.
Alors, avec Olivier Véran, peut-être pas avec Pierre Gentillet, ni d'ailleurs.
Avec Pierre Gentillet, c'est pas exclu qu'on soit d'accord sur certains points.
Alors, on va voir.
Il y a ce sujet-là que je trouve intéressant
dans l'analyse.
Non plus. Oui.
Premièrement, et moi je le pense vraiment, c'est qu'on se trompe en ayant un débat purement quantitatif. Quand on parle d'immigration, combien il en faut, etc. Et qu'avant tout, c'est un débat philosophique sur quel doit être notre modèle. Et là, c'est en effet vers là qu'il allait. Et deuxièmement, quand on regarde comment a fonctionné l'immigration en France, l'immigration économique, depuis, disons, les années 70, c'est vrai qu'elle a fonctionné selon un modèle qui était de faire venir des gens pour leur donner des métiers qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui élégamment les métiers en tension, mais c'est-à-dire des métiers les plus laborieux, les plus ingrats et les moins rémunérateurs qui soient. Et évidemment, le principe de cette immigration telle qu'elle était formée par les gouvernements des années 70, etc., c'était de ne pas offrir des très grandes perspectives et possibilités socio-économiques, professionnelles, même culturelles, sociétales, aux populations qui étaient immigrées. C'est vrai que, alors, il y a eu des évolutions, il y a eu le regroupement familial, il y a eu d'autres évolutions, mais globalement, on n'a pas changé beaucoup ce paradigme-là. Quand vous vous retrouvez avec des gens qui viennent en France et qui sont en effet dans cet état d'aporie que décrivait Olivier Véran, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas être régularisés, ils peuvent rien faire, et que évidemment ça crée un climat qui est extrêmement négatif. Je ferai remarquer que ça, c'est une analyse qui ne revient pas à culpabiliser la France et à dire que tout est notre faute. C'est une analyse qui revient à dire peut-être qu'il faudrait adopter un autre modèle de l'immigration. Moi, ce que je regrette, c'est que les débats sur l'immigration, ils sont toujours binaires.
C'est pas une question de flux, justement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut plus gérer les flux, ben on peut plus ni accueillir ni intégrer.
Non, mais parce que ça, c'est purement quantitatif.
Vous balayez complètement la question de la volonté de l'individu de faire sienne. Les valeurs de la République, de faire sien le mode de vie du pays dans lequel il veut s'installer, ça n'existe pas aux yeux.
Je l'ai pas balayé. Ce que je
si
dis,
vous n'en parlez pas du tout.
Non, mais c'est pas. C'est...
Vous êtes sur un discours culpabilisateur de la République et de ses.
C'est pas du tout culpabilisateur. Ça, cette question-là de la volonté.
Est-ce que ça existe la volonté
fait...
de s'intégrer?
Bien sûr,
est-ce
c'est
que
une
ça doit exister.
Qui existe à l'échelle
est-ce
individuelle.
Est-ce que ça joue dans la non-intégration?
Mais ça existe à l'échelle individuelle, à l'échelle historique. Ce qui compte, c'est qu'il y a des modèles. L'immigration, ça veut rien dire en soi. Il y a des modèles d'immigration. Il y a un modèle capitaliste de l'immigration. Il y a un modèle altermondialiste de l'immigration. Il y a plusieurs modèles. Le modèle qui a été adopté par la France, disons, depuis les années 70 de l'immigration, n'est en effet pas un modèle qui se construit sur l'idée qu'on offre des grandes possibilités socio-économiques.
Donc vous repartez sur l'histoire de on est coupable.
Ensuite, à l'échelle individuelle, c'est un autre sujet. Qui a des gens
qui
viennent.
C'est le sujet.
Bah c'est vous qui décidez que c'est le sujet. Là, en l'occurrence, Olivier Véran ne parlait pas de ça. C'était pas le
ah oui,
le
il évitait soigneusement d'en parler. Il occultait complètement.
On peut en parler, c'est un autre sujet.
Ah non, c'est le sujet de l'échec de l'intégration.
Pierre Gentil et Jean-Michel Fauvergue, on ne vous a pas entendu sur la question. Il est bientôt 23h, l'heure de retrouver, bien évidemment, Isabelle Piboulot pour le point sur l'information. Peut-être, on a 30 secondes, Pierre
Gentil. Ah bah non, pas sur 30 secondes.
Non, mais vous continuerez après.
On ne peut pas faire ça.
Teasez-nous ce que vous allez dire après 23h.
Non, mais écoutez, là, je vais rebondir sans doute sur ce que dit Nathan. Et voilà. Même pour une fois, je suis plutôt en désaccord avec Judith Vintraud, parce que d'accord. J'aimerais bien qu'on me définisse un jour ce que sont les valeurs de la République. Moi, je ne me suis jamais assimilé aux valeurs
l'égalité
de la République.
Égalité homme-femme. Je peux vous en donner quelques-unes.
Je ne sais pas si c'est vraiment. Enfin, je veux bien qu'on donne une liste.
Alors, vous développez votre réflexion dans un instant. Il est 23h. C'est à vous, Isabelle Piboulot, le rappel sur l'actualité.
Troisième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites mardi. La circulation sera de nouveau fortement perturbée avec pour la SNCF un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo, 3 TER sur 10. À Paris, la RATP annonce un trafic très perturbé pour les métros et les RER. C'est mieux du côté des bus avec 8 cars sur 10 et normal sur le réseau tramway. Le trafic aérien aussi ne sera pas épargné. Certains contrôleurs seront en grève mardi. La Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly. Les passagers qui le peuvent sont invités à reporter leur voyage. Et puis dans le reste de l'actualité, en Ligue 1, coup d'arrêt pour Marseille. L'OM a été battu à domicile 3-1 par Nice en clôture de la 22e journée. Une troisième victoire d'affilée pour les Aiglons avec des buts signés Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Bilal Brahimi. Les Marseillais ont réduit la marque avec Malinowski. Une défaite qui fait les affaires du PSG, désormais en tête avec 8 points d'avance sur l'OM.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité à 23h30. Dans un instant, on va s'intéresser au fonctionnement, ou plutôt peut-être au dysfonctionnement de la justice avec, vous allez le voir, un témoignage édifiant. Ce sera intéressant de vous entendre, Pierre Gentil, à ce sujet. Mais avant, un autre sujet. On parlait de la question de l'intégration. On revenait sur les propos d'Olivier Véran qui considère que notre modèle social d'immigration est inefficace.
Écoutez, pour reprendre Olivier Véran, je pense que cet homme vit dans une galaxie parallèle. Le problème, ce n'est pas l'intégration, c'est la désintégration. D'accord ? Je pense qu'à un moment, il faut qu'on vive, il faut qu'Olivier Véran vive avec nous dans le monde de la France de 2023. D'accord ? C'est-à-dire une France où nous avons des records d'immigration. Je rappelle que cette année, on a encore battu un record, 320 000 entrées légales et 128 000 demandes d'asile dont on sait qu'une bonne partie ne seront pas expulsées. Et cette histoire-là dure, alors avec une montée constante, depuis 40-50 ans. Donc si vous voulez, on peut intégrer, on peut assimiler des individus, mais des masses qui représentent chaque année la ville de Bordeaux. Mais de quoi ces gens parlent-ils?
Alors pourquoi on ne met pas en place des quotas?
Pourquoi? Parce que si on met en place des quotas, c'est quoi la logique? La logique, c'est de dire, nous en avons besoin pour des raisons économiques. Je vais vous dire une chose, la France, ce n'est pas une entreprise, d'accord? La France, ce n'est pas McDonald's, j'ai besoin de plus d'employés ou moins d'employés aujourd'hui, d'accord? La France, avant tout, c'est son peuple, c'est le peuple français. C'est une construction empirique, organique, qui s'est fait à travers le temps, qui s'est basée sur une culture commune, qui s'est basée sur des mœurs communes. Donc quand nous importons des peuples qui ont des traditions tout à fait différentes, à des niveaux, dans des volumes aussi importants, mais comment voulez-vous que nous n'aboutissions pas mécaniquement à une désintégration, ou pour reprendre le mot de Jérôme Fourquet, à une archipélisation? Donc, je réfute totalement cette idée-là. Alors évidemment, immigration zéro, ça ne veut rien dire. S'il y a des quotas uniquement pour des questions culturelles, parce que moi, c'est ça ce qui compte, si vous voulez.
Si on dit la France peut accueillir tant de personnes, tant de demandes d'asile,
mais pourquoi pas, à la limite, d'accord, mais pourquoi pas, mais qu'on en débatte et que ce sujet. Moi, c'est un serpent de mer, les quotas. Ça fait 30, 40 ans qu'on en parle, personne n'a mis en place cette mesure. Pourquoi pas, si le quota c'est 10 000 ou que c'est 5 000, d'accord, mais on sait très bien que ce ne sera pas ça. Et je ne veux pas, et je termine, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste le plus, je ne veux pas qu'on réduise la question migratoire à une question purement économique. Pour la majorité des Français, c'est une préoccupation culturelle.
Les quotas ne peuvent pas concerner les demandes d'asile, puisque la demande d'asile, personne qui est en danger chez elle. Les quotas, ça ne peut être que professionnel.
C'est vrai, effectivement. Merci pour cette précision, Jean-Michel Fauvergue.
Déjà, je pense que Olivier Véran aurait dû développer quelques pans du projet de loi qui va être soumis, parce qu'on ne parle que de la régularisation d'un certain nombre de personnes qui sont déjà sur le territoire national et qui travaillent déjà et qui payent des cotisations dans ce domaine-là. Mais il aurait pu, par exemple, parler de la réforme des préfectures qui va faire en sorte que les recours pour le droit d'asile, les recours du droit d'asile qui vont être baissés de 12 à 4, les juges uniques pour le droit d'asile, et surtout aussi une mesure qui est importante, c'est ne pas donner le RSA et les APL aux OQTF, parce que c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est écrit dans la loi, il y a des choses qui sont dans cette loi qui sont intéressantes. Ceci étant, moi je vais attaquer le problème sous l'aspect pragmatique des choses. Ce que vous disent les Français dans la rue, ils vous disent qu'ils en ont assez de l'immigration, d'une immigration agressive, l'immigration qui crée des délits. Il ne se passe pas une semaine ici sans qu'on commente quelqu'un qui était sous OQTF et qui a commis un crime ou un délit. Cette immigration agressive, il faut arriver à la juguler, il faut arriver à renvoyer les gens chez eux. Dans ce domaine-là, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Il faut maintenant être passé aux travaux pratiques et le faire beaucoup plus fort. Les Français sont aussi contre, et on l'a vu aux dernières élections présidentielles, parce que c'est un thème central, ils sont contre une immigration submersive aussi. Il y a tout un tas. On a vu que les flux qui arrivent en Europe ont augmenté de 64% sur le territoire des Balkans, sur la route des Balkans, pardon. Et les demandes d'asile sur toute l'Europe a augmenté de 50%. Donc, il y a un certain moment, on parle de flux, mais on pourrait parler aussi des gens qui sont déjà sur le territoire national, sans pour autant les traiter de stock, mais les flux se rajoutent au stock. Et à un certain moment, il y a cette impression d'immigration subversive. En clair, ce qu'il faudrait, c'est une immigration sélective, une immigration de talent, une immigration de main-d'œuvre, une immigration moins importante, et là où les gens s'intégreraient mieux, ou selon vos termes que je
m'assimilerais. Alors, le projet de loi immigration, on aura l'occasion d'en reparler. On va s'intéresser à présent au fonctionnement de la justice avec une autre affaire qui fait écho au dysfonctionnement pointé par l'affaire Siem ces derniers jours. On en a parlé. Alors, voilà l'histoire cette fois. C'est un gérant d'une pizzeria située en Normandie qui est condamné en mai 2022 à 14 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur des anciennes employées entre 2015 et 2018. Mais il est remis, écoutez bien, en liberté 8 mois plus tard. Est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel. Et on le comprend bien, c'est une décision incompréhensible pour les victimes. Et vous allez entendre le témoignage édifiant de l'une d'entre elles, Antoine Durand. Le récit est signé Inès Alicane.
Depuis un mois, l'agresseur présumé d'Amélie est en liberté, assigné à résidence à seulement quelques kilomètres de chez elle.
J'habite quand même à 16 kilomètres, à peine 16 kilomètres de chez lui. Et s'il faut que je déménage, j'ai pensé à déménager.
Une plainte pour agression sexuelle est déposée en 2016 contre son ancien patron, après ses très nombreuses menaces.
Je ne sortais plus, parce que moi, en sachant qu'il est venu chez moi pour me menacer, qu'il ne fallait pas que je dise rien, il a menacé sur mes enfants, sur ma fille surtout. J'avais l'appréhension quand il m'appelait... j'avais toujours l'appréhension de le voir.
Condamné par la cour d'assises à 14 ans de réclusion criminelle, le mis en cause a été libéré au bout de 8 mois. Aujourd'hui, Amélie est terrifiée de le recroiser.
J'ai une petite fille qui est handicapée. Elle est obligée de suivre des soins médicaux. Et ces soins médicaux sont où monsieur habite. Je ne sais même pas si je retournerai là-bas.
D'autant plus qu'Amélie et le suspect partagent le même cabinet de suivi psychologique.
Il m'a fait du mal. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer.
L'homme a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel le 12 juin prochain.
Alors on va vous entendre, mais c'est vrai qu'on se pose énormément de questions, on a du mal à comprendre. On va voir les précisions apportées sur les raisons de la remise en liberté du suspect avec l'avocat de la victime. Écoutez-le.
Le premier choc qu'il y a eu pour ces victimes, c'est effectivement d'apprendre que la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Chambre d'instruction de Rouen qui avait rejeté la demande de mise en liberté, de telle sorte que le dossier est revenu devant la chambre d'instruction de Caen. Et là, on a eu effectivement une décision qui a été un deuxième choc pour les victimes, car la personne, l'employeur, s'est retrouvée en liberté sous un simple contrôle judiciaire, au-delà même de ce qu'avait demandé l'avocat de cet employeur, de telle sorte qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai une cliente notamment qui a été reconnue comme victime, encore une fois judiciairement, pour des faits particulièrement graves, notamment de viol, et qui peut se retrouver du jour au lendemain au gré d'un supermarché pour faire ses courses en présence de la personne qui a été, elle, reconnue comme étant coupable.
Pierre Gentilier, vous qui êtes avocat, peut-être précisez-nous, oui. Parce que ce n'est pas forcément clair pour ceux qui nous regardent, c'est complexe le droit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette femme peut se retrouver en face de son bourreau alors qu'il a été condamné? Aujourd'hui il est dehors, pourquoi?
Alors c'est une absurdité, déjà je vous précise une chose, ça c'est un métier, c'est avocat pénaliste, donc j'ai des confrères qui sont avocats pénalistes, qui connaissent ce sujet, qui travaillent sur ce sujet, donc je vais essayer d'aborder ce sujet avec des termes parfois qui pourront paraître néophytes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet homme a été condamné à 14 ans de prison. Moi, de ce que je comprends, c'est que dans un premier temps, on a eu une décision en première instance qui a statué sur la possibilité de remettre en liberté, de l'impossibilité de remettre en liberté ce monsieur. Après, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et donc du coup, on revient en première instance. Et là, quand on revient en première instance, eh bien, c'est ce que vous disait ici l'avocat de la victime, pour l'instant, parce qu'il y a encore un appel, pour l'instant, la chambre, enfin, en première instance, je ne sais pas quelle est la juridiction, mais en première instance, il a été statué que cette personne pouvait être en liberté conditionnelle. La difficulté étant, et c'est ce qui rend le sujet un peu absurde, c'est que le violeur est à 15 minutes de la victime. Donc évidemment, c'est particulièrement choquant. Voilà. Ensuite, je ne veux pas commenter un dossier en cours.
Bien évidemment, mais ça relève que la justice a des failles, finalement, Julie de Vintraube, qu'elle est à côté de la réalité, que les victimes ne sont pas suffisamment prises en compte dans ces dossiers.
On voit que cette femme est absolument terrorisée à l'idée d'emmener sa fille voir le psychologue, terrorisée à l'idée de rencontrer son violeur. Elle vit dans la peur, elle en tremble. Que ça n'ait pas été pris en compte par la justice, je ne le comprends pas du tout. Maintenant, encore moins que Pierre, parce que je ne suis pas du tout avocate, je ne comprends pas, c'est très difficile d'avoir un avis. On ne sait pas pourquoi la Cour de cassation a cassé le refus de remise en liberté de cet individu. On ne sait pas pourquoi, de retour devant la première instance, finalement, ils ont décidé de le remettre en liberté au bout d'une période extrêmement courte, eu égard à la longueur de sa condamnation. C'est très bizarre d'avoir une...
Ce qu'on voit,
c'est une femme terrorisée qui n'est pas protégée.
Ce que je peux apporter une précision qui n'est surtout pas une justification. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour de cassation, à la différence des juridictions de première instance,
juge sur la forme.
Elle juge en droit. Elle ne juge pas sur les faits. Le juge de l'appréciation des faits, c'est le juge de première instance. Et encore une fois, moi, je n'ai pas eu accès à cet arrêt de la Cour de cassation. Mais peut-être y a-t-il une des raisons à trouver de ce côté-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Cour de cassation n'a pas apprécié aussi finement. Par exemple, ce que je vous disais, c'est que la victime est à 15 minutes quand même du viol.
Alors voilà, c'est ça qu'on ne comprend pas finalement, parce qu'effectivement, on vit dans un état de droit avec ses règles. Alors, il ne s'agit pas de remettre ces règles peut-être en cause, Jean-Michel.
Toujours aussi. Remettre en cause les règles.
Bah, si, bien sûr.
Un problème.
Bien sûr, surtout... On est dans un pays où il y a une multitude de recours. Quand vous êtes condamné en première instance, vous avez le recours de faire appel et ensuite le recours d'aller en cassation. Et après, éventuellement, la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez déjà trois recours successifs. Ouais. Mais après, vous avez des recours sur les actes qui sont faits, sur l'instruction, sur les actes qui sont faits.
Qui rend l'affaire compliquée
ici. Il y a une quarantaine de recours. Vous pouvez, et ça... Ça va toujours dans le sens de l'agresseur, parce que d'une manière générale, en particulier pour les affaires de stup, l'agresseur il a de l'argent pour payer ses avocats. Et donc, tous ces recours-là vont tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a des dénis de justice à l'arrivée, qui sont faits tout à fait légalement, parce que là, c'est fait légalement. Et vous disiez, et vous demandiez, mais comment se fait-il que, alors qu'il habite à 30 mètres ou à 50 mètres ou un quart d'heure, comment se fait-il que le juge n'ait pas pris ça en compte? Parce que le juge s'occupe pas de ça. Lui, il regarde si ça rentre dans son échelle de graduation, si ça rentre entre sa limite droite et sa limite gauche, et si ça rentre dedans, il dit voilà, je casse cette décision ou j'entérine cette décision.
Mais alors, il y a un côté justice déshumanisée, finalement.
Désuète surtout. Désuète et évidemment, ça entraîne une déshumanisation. Il faut travailler là-dessus aussi. Ça, c'est un gros chantier.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que ce qui définit la justice, je parle sous l'autorité de Pierre, mais c'est que la justice est procédurale, fondamentalement procédurale, et qu'elle obéit à des normes qui sont hiérarchisées, avec une jurisprudence extrêmement complexe, presque scolastique, ce qui fait que finalement, il y a vraiment un décalage, mais presque ça n'aurait pas grand sens de comparer la vérité judiciaire avec la vérité factuelle. On se situe sur... C'est pas... Parce que souvent, quand on est sur ces débats-là,
mais en fait, c'est ça le problème. C'est que les Français, ou en tout cas, même moi, la vérité factuelle, elle compte. Et quand je vois le décalage avec la vérité judiciaire, je ne comprends pas.
Bah, à mon avis, c'est comme si on comparait une phrase qui peut être dite en français et en chinois. C'est deux langues différentes. Oui. Et donc, évidemment, ça sonne différemment.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que Vous pensez peut-être, on va faire un peu du humour, au langage des inconnus, au sketch des inconnus sur les langages hermétiques. Allez voir ce sketch et vous verrez à un moment comment parle malheureusement un avocat, un homme de droit. Lisez des arrêts de la Cour de cassation. C'est vrai que pour un néophyte ou pour un étudiant en droit qui découvre ces arrêts, ou même par exemple aussi du côté du Conseil d'État, ça peut paraître un peu ardu, ça peut paraître un peu technique. Et encore une fois, c'est technique parce que, et c'est compliqué parce que le but c'est de chercher le plus juste et le plus vrai. Voilà, c'est une technique de la vérité en l'occurrence ici, la technique juridique. Là où j'apporte un bémol, un complément, c'est que je pense qu'effectivement aujourd'hui la justice, elle doit, faut pas oublier une chose, c'est que les arrêts ils sont rendus au nom du peuple français. Il y a quelque chose d'assez étrange à se dire qu'on rend des arrêts au nom du peuple français, d'un peuple qui ne comprend pas lui-même, pour la majorité, cet arrêt, s'il était amené à le lire. Donc il est possible, et c'est en ça que je suis plutôt effectivement un. Je pense qu'il faut arriver à dépasser un petit peu la vision classique qu'on a de l'état de droit, c'est qu'il est possible de changer les règles de droit. Et je pense que le peuple français.
Oui, parce qu'on entend, on ne peut pas toucher, c'est l'état de droit, on n'y touche pas, on l'entend ça souvent.
Il n'y a pas de droit. Alors, ça, c'est deux visions qui s'opposent tout à fait. Moi, je pense que tout droit est un droit politique en situation. Il est toujours possible. Le droit, c'est toujours de la politique. Toujours, toujours, toujours. Et même quand le juge interprète les règles, alors, hormis des règles très particulières, il y a toujours de la politique derrière. Moi, je pense qu'il faut essayer aujourd'hui de rendre cette justice plus accessible aux citoyens, et pour la rendre plus accessible, il faut qu'ils se l'approprient et considérer que le droit, c'est avant tout de la politique. Vous savez, le meilleur élément normatif juridique, c'est la loi. Qu'est-ce que c'est la loi avant ? C'est un débat au Parlement. Un débat au Parlement, c'est quoi ? C'est de la politique. D'accord ? Donc tout droit est fondamentalement politique. Donc on doit se réapproprier ça, parce qu'au départ, c'est la cité, c'est le peuple.
Parce que
je vous raconte un exemple.
Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui était sur ce plateau en fin d'après-midi, donnait un exemple au moment où Laurent Wauquiez proposait de mettre dans des centres tous les fichiers S. Après l'attentat de Nice, Manuel Valls, me semble-t-il, lui répond « on ne touche pas à l'état de droit
oui. ».
Donc voilà, c'est quelque chose, effectivement, une idée politique.
Mais je crois que là, c'est légèrement à côté du sujet. Comme le dit Jean-Michel Fauvergue, on peut et on doit, y compris quand on est juge, prendre en compte la vie réelle. Moi, j'ai un exemple en tête. C'est l'ancien juge, ancien procureur, Luc Frémiot, qui s'est rendu célèbre. Il exerçait à Douai parce que, contrairement à tous ses collègues, dans le cas de femmes battues par leur conjoint, c'est le conjoint qui l'obligeait à partir de chez lui et non pas la femme. Et c'était une décision souveraine. Les hommes disaient « Mais comment, c'est elle qui doit aller prendre ses bagages, les enfants sous le bras et partir dans un refuge. » Et lui a imposé que ce soit le batteur, le violent, l'agresseur qui quitte le domicile pour ne pas que la femme subisse une double peine. Et bien figurez-vous que maintenant, Marlène Schiappa, quand elle s'occupait de la condition féminine, a introduit ça dans la pratique dans la loi. Oui. Je ne vois pas par quel miracle.
Si heureuse.
Évidemment que la loi a un jargon, que les juristes ont un jargon, et heureusement qu'ils respectent.
Mais on peut adapter la loi à la réalité.
Votre exemple est un exemple heureux, mais en l'occurrence, je crains que ce soit quand même un exemple isolé. Vous savez, il y a quand même une politisation de la justice. Je rappelle qu'on a quand même un tiers, 33% des magistrats qui sont syndiqués au syndicat de la magistrature, en tout cas dans les élections, ils représentent 33%, pardon. Donc je pense qu'il y a aussi une politisation de la magistrature. Là, l'exemple vous sortez, je vous le dis, il est heureux, mais pour moi, ce qui doit faire le droit, d'accord, ce qui doit déterminer le droit, et encore plus quand on parle du droit pénal, parce que le droit pénal, c'est derrière, c'est la loi, eh bien, c'est le peuple français. Voilà.
Et du coup, Jean-Michel Fauvergue, c'est une politisation des magistrats, de la justice, et ça va être compliqué, ça peut être compliqué en tout cas de changer le droit.
Ah ben, c'est très compliqué de changer la justice déjà. C'est très compliqué, et parce que ça fait une trentaine d'années qu'elle est en train de péricliter, et on arrive à des situations de ce type-là, et d'autres situations qu'on a dénoncées ici sur ces plateaux-là. Mais changer le droit, non, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un consensus. Le problème, c'est d'avoir le consensus.
Et pas toujours, parce que nous avons quand même, alors là je mets un bémol, parce que nous avons aussi, et c'est là où on en revient à l'état de droit, c'est quand vous voulez changer une loi, vous vous heurtez aussi à la fois à la jurisprudence constitutionnelle. Hein, le Conseil constitutionnel peut censurer des lois au nom de principes, voilà, principes un peu vaporeux parfois, et puis au nom de la CEDH et de l'interprétation qu'on en fait. C'est pas la Constitution, en l'occurrence. C'est plus fin que ça. Ce sont les droits et libertés fondamentaux qui sont dégagés, c'est-à-dire plus ou moins inventés, par le Conseil constitutionnel tiré de textes flous. Et moi, je pense que la volonté politique, la volonté du peuple, doit pouvoir être au-dessus de l'interprétation de quelques juges. C'est pour ça que ce n'est pas seulement qu'une affaire de loi, malheureusement.
Je suis tout à fait d'accord et je peux porter témoignage de ça. On a en France cinq cours suprêmes qui vérifient le travail du législateur. Il y a le Conseil d'État, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez la Cour européenne de justice, vous avez la Cour de cassation française et vous avez la fameuse CEDH. Et à chaque étape, il y a une déconstruction de ce que les législateurs ont fait et ont travaillé. Et moi, sur la loi sécurité globale, on a eu un accord final du Sénat avec qui on n'était pas d'accord avec tout, hein, mais on a fait une commission mixte paritaire et on a eu un accord final avec le Sénat. Et on a obéi aux avis préalables du Conseil d'État. Eh bien, on s'est fait censurer une partie de la loi, en particulier l'article 1 sur les pouvoirs de la police municipale, parce que les constitutionnalistes n'étaient pas d'accord. Mais quand on leur a dit, ouais, mais le Conseil d'État, nous, on a fait tout bien, on a suivi ce que le Conseil d'État... Ils nous ont dit, le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel...
Mais vous êtes pour la suppression du Conseil constitutionnel?
C'est le Conseil constitutionnel.
On peut le remettre à sa place.
Et ils ont des jurisprudences qui sont des jurisprudences...
Ça veut dire quoi, le remettre à sa place, le Conseil constitutionnel?
Alors, là, vous me lancez sur un sujet énorme, mais je vais essayer de le compresser. Le problème en l'occurrence, le Conseil constitutionnel était jusqu'en 1971, c'est un peu compliqué, mais le juge uniquement de la Constitution de 58 à la loi. Il vérifiait la conformité de la loi à la Constitution. Mais la Constitution de 58, celle qui régit les rapports entre le Parlement, le pouvoir exécutif, etc. À partir de 1971, le Conseil constitutionnel a dit « il n'y a pas que la Constitution, il y a aussi les droits et libertés fondamentaux ». Décision de 1971. Et à partir de là, en fait, sur des textes qui sont des textes en fait très interprétatif. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suffit de la lire, on peut en faire beaucoup d'interprétations. Elle est dans le préambule, mais à partir de 71, dans le préambule de 46.
Oui,
préambule de 1958.
Mais intégré à la Constitution.
Il y a une référence de 58. Bon, on entre dans la technicité juridique, je ne veux pas perdre les gens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un conflit qui se joue et qui, pour moi, est fondamental entre la légalité et la légitimité. Ce que vous dites ici, monsieur, c'est que quand vous étiez député, et même encore aujourd'hui, dites-vous bien qu'un texte qui est voté par l'unanimité du Sénat et de l'Assemblée nationale, si demain le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire 9 juges non élus, décident que c'est contraire à un principe constitutionnel, eh bien la loi ne passera pas. Où est la légitimité ici? Je sais où est la légalité, elle est fondée par la Constitution, mais où est la légitimité? Ça, c'est une vraie question démocratique.
Allez, Nathan Devers, pour conclure sur ce sujet de la justice qui pose question.
Non, mais c'est un fait.
J'aime beaucoup avoir ce débat avec Pierre Gentil, parce que à chaque fois, c'est la question qui est très intéressante, c'est passionnant. C'est-à-dire que vous faites remonter le droit, vous l'avez dit, à la loi. À la loi, c'est donc à la volonté
populaire, oui.
Donc même à la volonté générale, d'estimer que le droit...
Un peu rousseauiste, mais je voulais...
La Constitution de 58 reprend ce concept rousseauiste de volonté générale.
Les deux.
Et donc on y est parfaitement. Okay. Moi, j'estime au contraire que dans ce qui caractérise l'état de droit, et justement, c'est précisément le décalage entre droit et politique pour la raison suivante. C'est que la notion d'état de droit, elle a été inventée non pas en contexte démocratique, elle a été inventée dans des contextes où on avait affaire à des monarchies, ou à des tyrannies, ou à des régimes qu'on nommerait aujourd'hui des régimes autoritaires, c'est-à-dire où le souverain, qui était en l'occurrence, qui ne représentait pas le peuple, qui ne représentait que lui-même et une petite clique, le souverain pouvait adopter des lois, n'importe lesquelles, qui pouvaient être attentatoires aux libertés fondamentales, aux droits humains, aux droits naturels, etc. Mais il me semble qu'en contexte démocratique, parce que finalement, ça je pense que vous seriez d'accord avec moi, pour dire qu'en monarchie, on a besoin d'un droit, bon. Mais en contexte démocratique, moi il me semble que c'est exactement la même chose que dans une monarchie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une loi est votée par la volonté générale et par le peuple, qu'elle ne peut pas, de la même manière, porter atteinte à un certain nombre de droits, etc. Alors à partir de là, la question c'est, est-ce que le droit doit servir le souverain ? Que le souverain soit une personne ou qu'il soit le peuple, ou est-ce que le droit,
parce que
droit doit servir les droits subjectifs, les droits naturels, les droits inaliénables?
Une courte réponse.
Merci. Ce débat est absolument passionnant. Parce que vous faites une confusion, c'est-à-dire que dans votre esprit, le souverain va nécessairement, à un moment... Alors, je connais, j'ai lu Hobbes et le Léviathan, je sais que le souverain peut abuser du pouvoir. Mais nous vivons au XXIe siècle, Nathan. Il est possible de prévoir des mécanismes par lesquels le souverain peut rendre compte devant le peuple quand il y a des excès de pouvoir. Donc moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas qu'on donne beaucoup de pouvoir au souverain. Dès l'instant qu'il y a derrière le peuple qu'il a voulu, D'accord ? Et qu'on a des garde-fous. À partir du moment où ces conditions-là sont posées sur la table, bah écoutez, non. Moi, je ne suis pas d'accord pour que 9 juges non élus arrivent et disent, voilà, au nom de droits et libertés fondamentaux, dont nous décidons nous-mêmes la portée, et qui parfois atteignent, et je termine par là, les intérêts collectifs. Lors de l'affaire Cédric Héroux, lorsqu'on fait passer des migrants et qu'on accepte de passer des migrants au nom de droits individuels, au nom du principe de fraternité, ça porte aussi atteinte à d'autres droits, à nos droits collectifs. Et le premier, c'est quoi ? C'est le droit à la frontière, le droit à la sûreté. Donc en réalité, ces questions sont bien plus complexes et bien plus larges que ce qu'on veut nous faire.
Allez, on va parler à actualité internationale, on va dire un mot. Allez-y.
Ajoutons, pour être beaucoup plus terre à terre, que les juges constitutionnalistes sont très politisés.
Oui.
On en revient effectivement absolument à la question. Et on aura l'occasion, bien sûr... d'en reparler. Merci pour ce débat passionnant. En tout cas, on a appris plein de choses. Oui. On va revenir à présent sur les fortes tensions entre l'Amérique et la Chine. Alors, Pékin a dit son mécontentement. C'était aujourd'hui, après que les États-Unis ont abattu le ballon chinois, supposé espion, qui survolait le territoire américain, je vais y arriver, depuis mercredi. La Chine, qui se réserve le droit de répliquer, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Retour sur les faits depuis New York avec Fanny Chauvin.
Après un parcours de plusieurs milliers de kilomètres de l'Alaska à la côte est des États-Unis, le ballon qualifié d'espion chinois n'est plus dans le ciel américain. Le Pentagone attendait qu'il soit au-dessus de la mer pour éviter tout dégât au sol lors de son explosion. Et bien, lorsqu'il s'est trouvé au large des côtes de la Caroline du Sud, plusieurs avions de chasse ont été dépêchés et un seul missile aura suffi pour faire tomber l'engin. Immédiatement après, des gardes-côtes, des plongeurs ont commencé les recherches pour repêcher les débris, des pièces qui seront ensuite analysées dans un laboratoire du FBI. Il s'agira de savoir quelle était la mission exacte de ce ballon, quelles informations il a collectées pour montrer qu'il s'agit bien d'un ballon espion chinois et non d'un aéronef à but scientifique, comme l'affirme Pékin.
Voilà, une affaire qu'on commente depuis plusieurs jours maintenant. Pékin qui se réserve le droit de répliquer. Donc, est-ce qu'on peut craindre une forte escalade des tensions entre la Chine, les États-Unis ? On connaît le contexte de la guerre en Ukraine, avec l'Iran aussi des tensions sur la question nucléaire notamment. Ou dans un monde, on le voit, la diplomatie a de plus en plus de mal, ou alors au contraire, on est dans une séquence qui est tendue, assez spectaculaire, parce qu'inédite, mais malgré tout maîtrisée.
Moi, il me semble qu'on peut craindre une escalade sans jouer au devin, mais déjà en constatant ce qui existe déjà. C'est-à-dire, vous avez quand même un pays qui, manifestement, je prends des précautions, donc à supposer que ce ballon soit bel et bien un ballon de surveillance, donc qui agresse un autre pays et qui se réserve le droit de répliquer quand cette agression est finalement stoppée. Donc si vous voulez, là, vous avez une inversion accusatoire qui est totale. Vous avez ce comportement qui est classique dans la diplomatie chinoise. Regardez au début du coronavirus. Quand le coronavirus apparaît à Wuhan, que les Chinois mentent sur le nombre de morts, sur les conditions de la maladie, qui mentent sur tout. Ils mentent, ils ne disent rien, ils ont tout caché. Encore aujourd'hui, on ne sait rien de l'état du coronavirus en Chine, etc. Et que par contre, un des seuls éléments de langage qui commence à faire fuiter comme ça, c'est de dire que finalement, c'est les Américains qui l'ont introduit et que les Américains ont menti. Pareil, inversion accusatoire totale. Vous avez la même chose qui se passe à Taïwan, quand la Chine, profitant de la guerre en Ukraine et ayant très bien compris le petit clin d'œil de Poutine, à savoir, nous, les régimes autoritaires, on peut maintenant s'approprier les territoires qu'on veut. La Chine commence à intimider Taïwan, à faire des missiles à côté de Taïwan, etc. Et qui ensuite juge comme une agression terrible le fait que Mme Pelosi ait posé les pieds à Taïwan pour une visite de 2 jours. Donc, si vous voulez, tout cela est encore une fois une relation d'inversion accusatoire parfaite et absolue.
Julie Dintraube, on vous entend dans une petite minute. On va retrouver Isabelle Piboulot puisqu'il est presque 23h30. Vous êtes bien sur CNews. Le rappel des titres avec vous, Isabelle.
À Brest, la jeune élève infirmière Elena Cluyou reste introuvable depuis une semaine. Un suspect a confié à ses proches avoir commis une bêtise et un accident. Ce Brestois de 36 ans a ensuite tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Pour l'heure, l'accident de voiture reste une hypothèse. Le véhicule du suspect a été incendié, mais aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur. À Paris, l'incendiaire présumé de la rue Erlanger sera jugé aux assises dès demain. Pendant 3 semaines, ses proches, des policiers et des pompiers seront entendus. La suspecte de 44 ans, atteinte de troubles psychiatriques, aurait mis le feu au 2e étage de son immeuble après un différend avec son voisin. Le drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Et puis un peu de légèreté avec du rugby au tournoi Destination. Ça n'a pas été simple, mais le 15 l'a fait. À Rome, l'équipe de France s'est imposée face à l'Italie 29-24 pour son entrée en lice dans le tournoi. Tenant du titre, les Bleus ont souffert. Trop de fautes, mais un bonus offensif pour les hommes de Fabien Galthié. Prochaine rencontre, ce sera à Dublin le week-end prochain face à l'Irlande.
Merci beaucoup Isabelle Piboulot, donc qui nous a fait tous les points sur l'actualité ce soir. Merci à vous Isabelle. On continue de parler sur les fortes tensions entre l'Amérique et la Chine. Julie de Vintraube, est-ce que on joue à se faire peur finalement après cette séquence, ou alors est-ce que effectivement vous craignez des tensions, des jours un peu plus sombres à venir?
Alors, mon avis importe peu. En revanche, le chef du transport aérien militaire américain, qui s'appelle Mike Minihan, est en train de donner l'alerte en disant qu'il entend des bruits de bottes extrêmement inquiétants du côté chinois, que les États-Unis ne sont pas assez préparés. Et sont d'autant moins préparés
à propos d'une invasion à Taïwan. Hein.
Oui, ils sont d'autant moins préparés que je vous rappelle que fin 2024, en novembre 2024, il va y avoir l'élection présidentielle américaine, qui est une période où évidemment les dirigeants des États-Unis auront la tête fixée sur l'échéance, et que les velléités bellicistes des Chinois vis-à-vis de Taïwan pourraient s'en trouver dopés.
Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une situation similaire à celle que l'on observe en Ukraine avec cette guerre et cette invasion russe, Pierre Gentillet ?
Vous voulez dire qu'on aura une invasion de Taïwan par la Chine ?
Voilà, très clairement.
Je ne sais pas, on ne va pas jouer au devin. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, bon, là, en l'occurrence, sur ce qui s'est passé, c'est une violation de l'espace, l'espace aérien américain. J'ai envie de vous dire, on est un peu à des niveaux bien, bien plus bas qu'en 1962, un peu comme le général de Gaulle à dire que, voilà, entre guillemets, les Américains ici sont agressés. C'est inadmissible que les Chinois aient survolé le territoire américain. Ils ont clairement nargué les Américains. Ensuite, mais je comprenais, hein, je pose ça, mais je n'excuse pas. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est peut-être une réponse du loup. Je ne sais plus comment on dit, du berger à la bergère ou du loup à la bergère, pardon. Je perds mes expressions en français. Vous voyez, cette histoire me fait tourner la tête. Parce que les Américains jouent aussi un jeu dangereux en Asie, tout autour de la Chine, tout autour des fameuses routes d'approvisionnement chinoises. Et la Chine considère de plus en plus qu'elle a son espace à elle, son espace d'influence, un peu comme le Japon l'a eu à un moment, elle avait... Le Japon avait ce qu'on appelait son espace de coprospérité. Eh bien, aujourd'hui, la Chine essaye d'avoir son espace. Taïwan, c'est un cas encore plus particulier, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Taïwan, ce fut la Chine, ce fut japonais, et après, ce fut la Chine, en tout cas la Chine nationaliste, et ça a été à l'origine la rupture entre la Chine communiste d'un côté, en 1949, et de l'autre côté, la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek. Et le parti de Chiang Kai-shek est resté au pouvoir très longtemps. La Chine a vu et voit toujours Taïwan comme, un peu comme pour Hong Kong, comme une extension. Et d'ailleurs, Taïwan aujourd'hui, qui d'ailleurs, je crois, on dit Formose, hein, si on le prononce à l'occidental, Taïwan, en fait, c'est peuplé majoritairement chinois, et il considère ça comme étant sa zone d'influence. Et il ne voit pas ce que les Américains, à des milliers de kilomètres, viendraient mettre leur nez ici. Voilà.
Allez, on suivra tout ça. En tout cas, merci Pierre Gentillet pour votre analyse. On va parler d'un sujet un peu plus léger, néanmoins, qui peut causer quelques soucis. Alors ici, je vous vois autour du plateau, vous êtes tous absolument très disciplinés, pas un mot plus haut que l'autre, des débats, oui, mais des débats bienveillants. Est-ce que vous êtes parfois agressif au volant? Vous arrivez ou pas? Parce que figurez-vous qu'en la matière, les Français sont champions. Selon un sondage des autoroutes Vinci, 65% des Français ont reconnu injurier d'autres conducteurs en 2022. On voit le sujet de Maxime Lavandier, puis on sera avec Pierre Lagage, vice-président Ligue contre violence routière, qui va nous expliquer tout ça.
Il y a ceux qui nient en bloc Non, je m'énerve pas au volant.
Jamais ?
Jamais.
Rarement.
Rarement ?
Ouais.
Moi ?
Ouais.
Jamais !
Et ceux qui assument ?
De temps en temps, oui.
Très souvent.
Ouais, souvent. Hein.
Selon un sondage des autoroutes Vinci, 65% des Français ont reconnu injurier d'autres conducteurs en 2022. 34% collent délibérément la voiture qui les énerve et 20% descendent quand le ton monte. Certains pointent la conduite.
Ça peut arriver quand les gens ne savent pas conduire, qu'ils coupent les routes, que les clignotants, c'est pas, ça ne sert à rien. Oui, effectivement, ça peut m'arriver de m'énerver au volant. Ouais.
Pour d'autres, c'est la cohabitation qui gêne.
Je suis souvent agressé par des vélos.
Ah ouais ? Comment ça se passe ?
Je sais pas, tous les prétextes sont bons, vous laissez pas suffisamment d'espace, vous roulez trop vite.
Mais alors, pourquoi autant d'agressivité au volant ?
Il y a un tel bordel maintenant en ville avec les trottinettes, les vélos qui prennent les sens interdits, les trottinettes qui brûlent les feux. Mais il faut être hyper vigilant, donc ça crée quand même un stress. Et je pense que ça amplifie le phénomène.
Et si vous aussi, vous avez du mal à gérer votre stress, cette dame a peut-être la solution.
Je chante.
Cela vous évitera sans doute des désagréments.
Et on va en parler avec Pierre Lagage, vice-président de Ligue contre les violences routières. Pierre Lagage, bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette agressivité des Français au volant ? Est-ce que, d'abord, c'est un phénomène nouveau ou, au fond, c'est un peu culturel ? Ça a toujours existé. En tout cas, on a le sentiment, notamment à travers des films, que le conducteur français, c'est un râleur.
Bah, écoutez, il ne vous aura pas échappé que le nom de notre association, c'est la Ligue contre la violence routière. Nous avons 40 ans. Voilà, donc bien évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il faut reconnaître que ces derniers temps, on observe une aggravation des comportements sur la route. Alors, vous disiez que c'était un sujet un peu plus léger. Alors, si on s'attache effectivement aux injures et aux comportements injurieux, on pourrait considérer que finalement tout ça n'est pas si grave, quoique. Mais la problématique, c'est que c'est la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez. Parce que ça va de pair aussi avec des comportements déviants sur la route. Et cette agressivité générale, elle va aussi de pair avec finalement une espèce de défiance vis-à-vis des règles. On est dans ce contexte aujourd'hui d'une défiance par rapport aux règles, par rapport aux institutions, et la sécurité routière n'y échappe pas.
Oui, parce qu'effectivement, je parlais d'un sujet plus léger, mais ce n'est pas le cas, puisque quand on parle d'incivilité au volant, ce n'est pas seulement le geste de la main ou la petite insulte, c'est aussi derrière le non-respect des règles.
Oui, tout à fait. Et ça se traduit par des accidents, donc des morts et des blessés. Donc on est sur un sujet grave. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont liées à des phénomènes sociétaux. Bon, on sait que la violence entre les individus a plutôt tendance à augmenter. Alors on a traversé des périodes pas forcément faciles récemment, mais il y a aussi des éléments comme les réseaux sociaux qui n'aident pas non plus puisque ça habitue finalement on s'habitue à tout, vous savez, même à la violence finalement et même aux injures, sauf qu'elles restent bien évidemment intolérables. Donc c'est une dérive qui est quand même inquiétante.
Et est-ce que l'aménagement des centres-villes ces dernières années, on l'a beaucoup vu, alors on pense à Paris, la capitale, mais pas seulement d'ailleurs, est-ce que ça a pu aussi avoir un impact sur les nerfs des conducteurs ?
Bah, vous savez, c'est un grand classique. Quand on a un problème comportemental, on trouve toujours les raisons ailleurs. Bon, très objectivement, quand on est dans des conditions de circulation un peu tendues, ça n'aide pas. Voilà. Mais ça ne justifie jamais la violence et les comportements déviants. Chacun doit faire preuve de compréhension, de patience. Oui, d'une certaine mesure, ça peut expliquer, mais ça ne justifie jamais, si vous voulez. On a aussi un rapport, je dirais, culturel à la conduite qui est un peu particulier. On parle du permis de conduire. Quand le permis à points était mis en place, il y a une levée de bouclier parce qu'on s'attaquait à une liberté jugée vraiment très très importante. Nous, au niveau de la Ligue, ce qu'on préconise, c'est de faire évoluer le permis de conduire en un contrat de conduite. Vous savez, sur la route...
C'est-à-dire ?
Il y a des règles. Ben, c'est-à-dire que faire comprendre qu'à un moment donné, si on ne respecte pas les autres, si on ne respecte pas les règles, si on ne s'inscrit pas dans un rapport gagnant-gagnant, j'ai cette liberté de pouvoir me déplacer en sécurité, mais en face, je dois aussi respecter les règles. Il faut aussi, mener cette éducation. Elle n'est pas assez présente, à mon sens, dans les auto-écoles. Vous savez, dans les auto-écoles, on apprend à conduire. Voilà. On apprend les règles, le code de la route et puis les techniques de prise en main d'un véhicule. Ce qui est tout aussi important, c'est apprendre à se conduire. Voilà. Et là-dessus, il y a sans doute un champ pédagogique aussi à travailler.
On a vu aussi l'arrivée des trottinettes, des vélos de plus en plus. Ça n'existait pas ces dernières années. Là encore, ça a chamboulé finalement... la route et l'utilisation des véhicules.
Oui, avec sur les vélos et les trottinettes, là aussi un problème culturel. Hein. Il y a pas si longtemps que ça, la trottinette c'était un engin de déplacement de loisir, voire de jeu. Voilà. Et en quelques années, c'est devenu un engin de déplacement. Et il y a toute une démarche culturelle à travailler pour faire comprendre que quand on est sur la route, on est potentiellement en danger et que le respect des règles et le respect des autres, c'est très, très important parce que ça contribue bien évidemment à la sécurité des autres, mais à sa propre sécurité.
Merci beaucoup Pierre Lagache de nous avoir éclairé finalement sur ce problème et qui n'est pas... plus léger, comme on pourrait le penser, sur les incivilités, l'agressivité au volant. Merci Pierre Lagache. Je le rappelle, vous êtes vice-président en Ligue contre les violences routières. Merci d'avoir été en liaison avec nous. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, peut-être un tour de table. Votre réaction, finalement, sur ces incivilités, qu'est-ce qu'elles révèlent, qu'est-ce qu'elles disent, selon vous, Nathan ?
Bah, écoutez, je pense qu'il faut... Il faut distinguer deux choses. Quand c'est des insultes au volant, franchement, ça fait partie de l'esprit français. Moi, je trouve ça même assez charmant. On est un peuple râleur. Il n'y a pas besoin de dramatiser la chose et d'estimer que c'est catastrophique et parler de pédagogie comme si on était des gosses à qui il fallait toujours légiférer, donner des lois. C'est insupportable. Bon, et quand c'est des violences au volant, évidemment, c'est des violences qui peuvent se produire partout, pas plus au violent qu'à l'œil. Et il y a évidemment un contexte de conduite où conduire dans une ville française, c'est pas la même chose que conduire dans certaines villes où il peut y avoir des routes à 6 voies au milieu de la ville, etc. C'est des conduites qui sont désagréables, stressantes et qui favorisent en effet des moments de stress, voire d'hostilité.
Le côté râleur finalement, râleur français, est-ce qu'au fond c'est pas un peu culturel, Julie Vintraube ?
Oui, c'est facile de mettre sur le dos de la culture l'absence d'éducation, une grossièreté et un sans-gêne
qui révèle.
Malheureusement sont très visibles en France et beaucoup moins dans d'autres pays.
C'est vrai que les pays européens sont beaucoup moins touchés par ce phénomène.
Hein. Ouais. J'ai renoncé à conduire à Paris pour les raisons que vous savez.
Hein, c'est terrible. On ne peut plus conduire. 30 secondes avant la fin, Jean-Michel Fauvert.
Mais en tant que piéton, le comportement des cyclistes et des trottinettes est un danger.
Allez à vélo.
Jean-Michel Fauvert.
Prenez un vélo à Amsterdam et vous verrez que... les habitants de cette ville sont les râleurs français à leur volant, quoi. Ça existe aussi ailleurs. Je voulais juste dire aussi que sur les vélos, sur les trottinettes, etc., il y a une espèce de sentiment de liberté et de non-respect des règles qui s'est développé. Et les cyclistes et ceux qui sont sur les trottinettes ne sont pas les moins râleurs que...
C'est pas faux. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous allez reprendre votre vélo pour rentrer ce soir. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci Nathan Devers. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci Pierre Gentillet. Merci Julie de Vintraube. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews à minuit l'édition de la nuit et ce sera avec Mickaël Dorian. Cette émission est à revoir sur notre site www.cnews.fr. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.